Je prends l'exemple du Bail d'or de Lu. Ça a été créé en 1905. Et Bail d'or est toujours là, aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'une marque a pu traverser des révolutions, des guerres, des mutations de comportement du consommateur. Et donc, de plus en plus, les marques placent sur le packaging la date de création. Vous allez par exemple prendre un paquet de Lu, vous avez la date de création, 1848. Ça, c'est très important. Car, et là, c'est le paradoxe, plus une marque est vieille, plus elle est jeune. Parce qu'elle est dynamique. Elle a réussi à traverser un siècle, deux siècles, etc. C'est le paradoxe de jouer justement sur l'antériorité.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Souvent imité, jamais égalé, dit-on souvent à propos des préparations culinaires qui ont marqué l'histoire. Dans un monde capitaliste ultra concurrentiel, les fabricants ont tout intérêt à soigner leur avantage compétitif et peaufiner le caractère unique, ou en tout cas prétendument unique, de leurs produits. De quoi le récit de cette authenticité est-il le nom? Comment les secrets de fabrication font-ils le mystère d'une marque? À quel point ces informations sont-elles réellement sensibles et confidentielles? Comment sont-elles protégées? Comment le secret industriel et le brevet fonctionnent-ils? Dans cette série sur les secrets de fabrication, nous allons plonger dans différents cas pratiques afin de comprendre les liens intimes entre alimentation et concurrence. La soupe aux truffes noires VGE de Paul Bocuse en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing, la purée de Joël Robuchon ou encore le berlingot d'Anne-Sophie Pic. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, dans le milieu de la gastronomie, les chefs cherchent à se démarquer en mettant en valeur des plats signatures, des univers distinctifs, une esthétique, afin d'exister et d'être reconnaissables dans cet univers ultra compétitif. Mais dans le secteur alimentaire, le monde gastronomique n'est bien sûr pas le seul à chercher à peaufiner ses avantages comparatifs. Dans l'industrie agroalimentaire aussi, les marques tentent de réenchanter leur univers et s'anoblir, notamment en nouant des partenariats avec des chefs. C'est ce que m'a expliqué Jean Watin Augouard, historien des marques.
Je suis Jean Watin Augouard, historien des marques et des entreprises depuis au moins une trentaine d'années. J'ai été longtemps rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle La Revue des marques. Puis j'ai écrit des livres, des dictionnaires des marques. Et donc je m'intéresse aux histoires de marques qui sont en même temps des histoires qui racontent aussi l'évolution de la société française dans laquelle ces marques s'inscrivent.
Pour Jean Watin Augouard, il est évident que les marques des grandes et moyennes surfaces ont tout intérêt à avoir leur nom associé à celui de chefs reconnus pour leur cuisine d'auteur.
Les marques donc de l'industrie agroalimentaire ont demandé à certains chefs étoilés de les conseiller dans leurs recettes, voire même de signer des recettes. Et ça a commencé en 1974 avec Michel Guérard, qui fut l'un des fondateurs de la nouvelle cuisine. Et donc, Michel Guérard avait travaillé pour Findus, pour Nestlé. Bon, en 87, c'est Joël Robuchon qui a accompagné Fleury Michon pendant plus de 20 ans. Il a signé, entre autres, un hachis parmentier et on voit le visage de Joël Robuchon sur le packaging. Ensuite, je peux citer Thierry Marx avec Badois, Philippe Etchebetz avec Cronenbourg. Bref, beaucoup, beaucoup de chefs étoilés deviennent des ambassadeurs de la marque et ça permet, si vous voulez, de donner une caution, parce que les marques sont souvent considérées dans l'industrie alimentaire, il y a le mot industrie, donc c'est industriel, il y a souvent des produits ultra transformés, et donc quand un chef donne sa caution, il vient rassurer, il vient fidéliser le consommateur, il donne plus de plaisir, il y a une montée en gamme en même temps pour la marque, ça permet à la fois de valoriser le consommateur, il est content chez lui de goûter un plat Joël Robuchon sans être obligé d'aller dans un restaurant Joël Robuchon, donc ça valorise le consommateur, ça valorise aussi la marque, parce que dans le rayon d'une grande surface, il y a un peu plus de visibilité, puis ça personnalise le produit. Le chef de son côté, il se fait connaître différemment. Mais, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de problème de légitimité et de notoriété. Il ne faut pas que la marque vienne casser la notoriété du chef. Donc, c'est très important de bien choisir l'ambassadeur qui va représenter la marque.
Car de manière générale, une marque, c'est toujours l'histoire d'un storytelling.
Une esthétique, ça se fait forcément par le packaging. Et donc, ce sont les agences de design qui essayent de travailler l'esthétique ou la beauté du packaging, justement, pour être attractif. Dans un rayon de supermarché, le consommateur consacre peu de temps pour choisir son produit et il est en face d'une profusion très importante. Donc, d'où la nécessité d'attirer l'œil, de créer une préférence de marque par justement la qualité visuel du packaging. Et effectivement, il y a aussi le contenant, mais il y a aussi le contenu. Là, actuellement, vous voyez, par exemple, Danone vient d'inaugurer un nouveau centre de recherche à Saclay. Vous avez plus de 500 chercheurs qui travaillent justement sur les nouvelles recettes. Les entreprises sont très vigilantes quant à la qualité des produits qu'elle propose aux consommateurs. Parce que le consommateur veut de plus en plus des produits de qualité. Alors, à la fois, il veut éviter de payer trop cher, hein, mais d'un autre côté, il veut de plus en plus des produits de qualité.
Historiquement, les marques se généralisent dans un contexte où l'on passe d'une société où l'on va chez le commerçant d'à côté à une société où l'on a besoin des marques pour se repérer.
La marque tel qu'on l'entend aujourd'hui, et là on est donc dans l'univers des industries agroalimentaires, hein. C'est dans cet univers que la marque, le concept de marque est né, au début du 19e siècle, au moment de la première révolution industrielle. Je pourrais dire, pour résumer, pas de vapeur, pas de chocolat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au départ, si je prends l'exemple du chocolat, c'était une des premières marques, c'est la marque Meunier, chocolat Meunier qui appartient au groupe Nestlé. Eh bien, le créateur, hein, Jean-Antoine Brutus Meunier, il est passé donc du vrac vendu chez les apothicaires. C'était un médicament ou c'était un produit qui était consommé liquide. Et c'est lui qui a le premier à fait passer le produit vendu en vrac au produit vendu à l'unité, emballé, avec son nom, et c'était fait de manière industrielle, grâce à la révolution industrielle, qui a fait que le produit était donc vendu en quantité pour répondre à la demande des consommateurs. Si vous voulez, la marque, elle est née suite à une très grande révolution, parce que on est passé du médicament, dans le cas du chocolat, hein, au produit de consommation, on est passé de l'apothicaire à l'épicerie, on est passé du vrac au produit emballé avec un papier qui sécurise, hein. On est passé donc du produit liquide au produit solide. On a démocratisé, parce que c'est ça la marque vient démocratiser et vient rendre le produit accessible. Et puis surtout, il y avait sur le produit, sur l'emballage, le nom du fabricant. Il y a donc là aussi autre singularité de la marque, une traçabilité. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas content, eh bien vous allez voir Monsieur Meunier, vous lui dites, écoutez, Monsieur Meunier, votre chocolat, ben, il n'est pas bon du tout. Hein, voilà. Alors, le petit inconvénient, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de désincarnation. Avant, quand on est dans une épicerie, il y avait le contact avec le commerçant. Et donc, avec l'industrialisation du produit, eh bien, on a été obligé de créer de la réclame pour attirer l'œil du consommateur.
En quelques siècles, l'industrialisation à marche forcée et le développement des flux de marchandises ont contribué à homogénéiser le paysage alimentaire. Aujourd'hui, on trouve de tout, partout, tout le temps. C'est la fameuse société de consommation, ce système où chacun s'entoure d'objets qu'il n'a pas produits ou vu produire, comme le dit Anthony Galuzzo, maître de conférences et auteur du livre « La fabrique du consommateur ».
À l'époque du vrac, le client faisait confiance au commerçant, mais il ne savait pas quel était le produit qu'il achetait. Avec la marque, il y a un certain nombre d'atouts apportés au consommateur. C'est la transparence, la traçabilité. On est sûr d'avoir une qualité identique. C'est-à-dire que quand vous achetez une plaque de chocolat Nestlé tel jour, le lendemain, vous achetez la même plaque, elle sera de la même qualité. Le consommateur, donc, va avoir confiance. Il y a aussi une sécurité puisque le produit est emballé. Il y a une identification, une comparaison possible. Je peux comparer tel produit à tel autre. Hein. Et puis, il y a aussi une performance. L'industriel s'engage à améliorer constamment son produit. Alors, c'est vrai qu'on gagne en traçabilité, mais on perd un peu en contact, ce lien direct, le marchand. Alors, on a développé la réclame, les objets publicitaires, les publicités, tout ça, bien sûr, pour réclamer. Hein. La réclame, c'est réclamer l'attention puis la fidélité du client. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un sacré paradoxe. c'est qu'on revient au vrac. Dans certains magasins, à la fois des magasins spécialisés, mais aussi dans les grandes surfaces. Hein, on le voit aussi bien des fruits secs, des céréales. Donc ça, c'est un paradoxe. Et des marques, et du vrac, des produits vendus en vrac, mais avec quand même la signature de la marque, pour apporter une caution.
Pour autant, contrairement à une idée répandue, la marque n'est pas issue de la révolution industrielle et n'est pas propre à l'entreprise moderne. Elle a toujours existé comme signe anthropologique et précède, et de très loin, l'industrie, l'entreprise et le marketing. Ainsi a-t-on retrouvé des marques sur des poteries datant de 1300 avant Jésus-Christ, dans une région qui devint par la suite une partie de la Grèce ancienne. Et cela, c'est le professeur de marketing Benoît Elbrun qui nous l'apprend. Reste que les marques d'aujourd'hui, au sens industriel du terme, sont des manières de figer dans le marbre une identité et un univers. Souvent, elles mettent en avant un récit du mystère et des secrets de fabrication.
Il est évident que par construction, si une marque veut éviter d'être copiée, elle doit protéger ses secrets de fabrication. Et puis, qui dit secret dit mystère. Qui dit secret dit chercheur qui apporte quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, qui va changer, qui va apporter davantage de plaisir, etc. Mais d'un autre côté, il y a quelques marques dont on dit qu'elles ont un secret de fabrication, mais c'est souvent une légende. Je prends l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola, on a toujours dit qu'il y avait un secret de fabrication et que Coca-Cola refusait de le donner. Or, il suffit d'aller sur Google et on arrive à finalement trouver la fabrication de Coca-Cola. Bon, il y a d'autres produits, par exemple le pâté Enaf. Moi, je me souviens avoir visité l'usine Enaf, où le chef de fabrication me disait ben, « Voilà comment on fabrique le pâté, mais je ne vous dirai pas quels sont les ingrédients. Bon, » Les ingrédients, on peut les trouver, mais la composition, la nature, il y a toujours quelque chose de mystérieux. Pourquoi ? Parce que c'est pour dire au consommateur « J'ai une singularité, je suis unique, et vraiment, si vous ne me consommez pas, vous allez rater quelque chose d'extraordinaire. Hein. » Voilà. Mais, et alors c'est le paradoxe, c'est il est de plus en plus difficile de dire qu'on a des secrets parce que le consommateur veut tout savoir. Ils veulent absolument savoir ce qu'il y a aujourd'hui dans le produit. Quels sont les ingrédients? Et c'est la raison pour laquelle on voit une floraison d'applications qui viennent dire au consommateur, quand il scanne le QR code, il peut avoir tout ce qu'il y a dans le produit. Alors, il a les ingrédients, il n'a pas effectivement la manière de composer les ingrédients, certainement, voilà. Mais c'est vrai que le secret de fabrication, c'est un concept aujourd'hui difficile à manier, parce que c'est à la fois une singularité, c'est à moi, c'est pas à l'autre, mais le consommateur, lui, il veut tout savoir. Il ne veut plus être trompé, il ne veut plus que la marque triche, parce que très souvent on disait « Ah, oh, mais la marque, elle me manipule, elle me raconte n'importe quoi, etc. » Et si on rend la recette visible, là, on ne peut plus tricher. Si je prends un produit basique, mais enfin, la mousseline, purée mousseline, hein, bon, il fut un temps où il parlait d'un secret de fabrication. Bah, vous allez sur la quatrième de couverture du packaging et vous avez à la fois la composition du produit et puis mousseline vous conseille pour créer vos propres recettes. Parce que quand une marque dit qu'elle a un secret de fabrication, elle vous le fait partager un peu quand vous consommez le produit. Ah, vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous savez qu'il y a un secret, et ce secret, il y a une sorte de relation, une sorte d'intimité entre le consommateur et la marque. Quand la marque lui dit, écoute, j'ai un secret de fabrication, mais je l'ai fait, c'est pour toi. Hein, voilà. Je te le dirai pas, mais tu vas peut-être le découvrir petit à petit.
Dans un monde moderne ultra-capitaliste, les marques redoublent d'inventivité pour s'offrir à un vernis d'ancienneté, valoriser le côté historique de leur savoir-faire et mettre en scène une réputation de maison ancienne. Ainsi, la crédibilité d'une marque passe souvent par la mise en scène de son authenticité. C'est comme ça qu'un tableau de Vermeer, celui de la laitière et son pot de lait, s'est retrouvé dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui sur les yaourts de grande surface La Laitière. Une idée, à l'époque, d'un chef de produit du groupe Chambourcy, racheté par Nestlé depuis, qui a imaginé un yaourt au lait entier dans des pots en verre. Un produit haut de gamme, puisqu'à l'époque, la plupart des yaourts sont produits avec du lait écrémé et vendus dans des pots en carton. J'ai pensé qu'il y avait une place pour un quatrième segment avec une image haut de gamme, grâce à des qualités gustatives immédiatement reconnues par le consommateur, explique Jean-Claude Marcantetti dans le livre « Une histoire de gourmandise » paru en 1998. Jean Watin Augoire.
Il y a effectivement beaucoup de stratégies et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les marques. Pendant très longtemps, les marques se disaient « Oh, bah, mon histoire, ça ne m'intéresse pas, moi je pense à l'avenir, l'histoire c'est le passé. » Et se sont rendues compte que c'était une erreur et qu'elles reviennent énormément à leur propre histoire, alors à ce qui les singularise. L'histoire de Mousseline, c'est pas l'histoire d'une autre. Chaque marque a une histoire. Et donc, cette histoire, je prends l'exemple des pailles d'or de Lu. Les pailles d'or de Lu, ça a été créé en 1905. Et pailles d'or est toujours là, aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'une marque a pu traverser des révolutions, des guerres, des mutations de comportement du consommateur. Elle est toujours là. Et donc, de plus en plus, les marques placent sur le packaging la date de création. Vous allez par exemple prendre un paquet de Lu, petit écolier ou n'importe quel, vous avez la date de création, 1848. Ça, c'est très important. Car, et là, c'est le paradoxe, plus une marque est vieille, plus elle est jeune. Parce qu'elle est jeune, elle est dynamique. Elle a réussi à traverser un siècle, deux siècles, etc. C'est le paradoxe de jouer justement sur l'antériorité. Puis vous avez aussi, on met de plus en plus en scène les hommes et les femmes qui travaillent le produit. Par exemple, Fleur de Colza, chez Le Sieur, a mis en scène toute la chaîne de création de valeur au sein de laquelle les hommes et les femmes sont à l'origine. Je prends l'exemple de Lu, avec la campagne Lu Harmonie, qui parle des champs, de tout ce que Lu fait pour protéger. On parle aujourd'hui d'agroforesterie, biodiversité, etc. Et vous avez aussi tout le travail sur les filières. Nespresso, par exemple, met en scène l'évolution du produit, des champs jusqu'à la recherche. Excellent cas d'école, Malongo a tout compris quand il signe « Le cœur des hommes bat dans Malongo ». Voilà. Ça, c'est une stratégie pour valoriser mon savoir-faire, parce que finalement, la marque, c'est le faire-savoir du savoir-faire pluriel de l'homme, de la femme, bien sûr, d'hier à demain. Et donc, la notion de terroir, d'enracinement, de maison, la notion de maison est importante, parce que la maison, c'est la chaleur humaine, c'est pas l'usine. L'usine, c'est un peu froid, mais la maison, c'est différent. On parle de la maison maille. Qu'est-ce qui peut faire que Nespresso va, par sa propre histoire, s'approprier un territoire qui la légitime et qui va créer, je dirais, une sorte de préférence de marque pour le consommateur. Il va créer aussi un imaginaire. Justement, l'histoire, avant, c'était considéré par les marketeurs, tout ça, comme c'était du passé. Or, finalement, on se rend compte que l'histoire, c'est non seulement le passé, c'est le présent, et c'est le futur, ou c'est l'éternité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, un peu. Et que la marque, si vous voulez, on dit, il n'est pas de société sans consommation. Est-ce qu'on pourrait avoir une société sans marque? Moi, je ne le pense pas. Mais c'est une question qu'on pose. D'où le retour du vrac. Mais le vrac revient avec les marques. Vous voyez, c'est parce que les gens ont besoin d'une caution.
En fait, l'histoire des marques n'est rien de moins que l'histoire des mythes. Pour le comprendre, j'ai tendu le micro à Georges Lévy, spécialiste des marques et des mythologies contemporaines.
Je m'appelle Georges Lévy. Et je suis un spécialiste des marques. Alors, c'est quoi un spécialiste des marques? C'est quelqu'un qui aide les entreprises à éventuellement créer un nom de marque, lorsqu'il n'existe pas, à définir un positionnement, c'est-à-dire ce qu'on met dans la tête des clients ou des consommateurs pour qu'ils achètent les produits de cette marque. Et puis, de façon complémentaire, eh bien, quand les marques vont bien, c'est de les aider à aller mieux, donc à créer d'autres produits. Et quand elles vont pas très bien, c'est de les aider à se relever. Et puis, ça va jusqu'à la valorisation financière des marques, puisqu'une marque, c'est un actif et que ça a une valeur et qu'il faut savoir la calculer. Je fais ça depuis une trentaine d'années. J'ai écrit plus d'une quinzaine de bouquins sur le rapport entre les marques et les mythes.
Georges Lévy explique que la marque est un repère mental sur un marché.
La marque, c'est un repère mental sur un marché. C'est la définition que j'aime donner et qui ne tient qu'en trois mots. Alors, c'est un repère sur un marché. Vous avez une marque, prenons du yaourt, globalement, et donc ça va être sur le marché du yaourt. Quelle est la position, quel est le repère de Danone sur ce marché du yaourt, ou quel est le repère de Bonne Maman sur les petits gâteaux, par exemple. Donc ça, c'est le repère sur le marché, puisqu'en fait, une marque, c'est fait pour gagner des parts de marché, pour vendre plus, et vendre, on va le voir tout à l'heure, un peu plus cher. Mais c'est un repère mental, c'est-à-dire c'est non seulement un repère sur un marché, ça c'est du marketing, mais c'est un repère dans la tête des gens. Si vous pensez que Bonne Maman, par rapport à son nom, par rapport à ce que finalement ça représente, son logo, sa petite nappe de carré rouge, eh bien finalement c'est du produit comme le faisait Maman, eh bien ça c'est le repère mental. Et donc si on pense que finalement c'est les recettes de Maman, on est prêt à payer un peu plus cher que si c'est une marque industrielle qui simplement dit eh ben je fais des bons gâteaux. Tout le processus se construit autour de ça et on voit bien. Alors vous avez Bonne Maman, vous avez les galettes Saint-Michel, vous avez Lu, et c'est trois types de positionnement très différents. Bonne Maman, on voit bien que c'est les recettes à l'ancienne. Lu, ben ça vient de très très loin du 19e siècle quasiment. Et puis Saint-Michel, ben c'est ce que savent faire de mieux les Bretons ou les Normands hein, pour Saint-Michel. Donc une fois qu'on a créé ce nom et cette idée, hein, ce qu'on appelle ce récit, ce positionnement, ce storytelling, puisqu'on va construire une histoire autour de ça, on la met à disposition du public. Et si cette histoire, avec de la publicité ou sans publicité, finalement, quand ça marche bien, eh bien, les distributeurs, hein, Monsieur Carrefour, Monsieur Casino, Monsieur Leclerc, se disent, bah, faudrait qu'on ait ce produit dans nos rayons, et ils le mettent à disposition. Et si ce travail sur la marque a été bien fait, ben, le public finalement achète et accepte de payer un peu plus cher. Ce qui fait que la marque, c'est pas uniquement de gagner des parts de marché, donc de gagner des consommateurs, mais c'est de gagner également un peu plus de sous que quand c'est simplement un produit. Un produit, c'est de la commercialisation. Une marque, c'est de la narration.
Georges Lévy tisse des liens entre le storytelling des marques et les travaux des linguistes qui ont travaillé sur les mythes.
L'être humain est un être de narration. Le livre « Sapiens », qui a été écrit par Harari, qui est un best-seller mondial, donne pour hypothèse que finalement l'humanité a plutôt acheté, qu'on trouve pas mal, que Sapiens a survécu, Sapiens c'est-à-dire nous, on a survécu alors qu'on était les moins adaptés pour survivre de toute la création. Le lion a la force, la girafe elle est grande, le serpent il pique, etc. Et nous, finalement, vous mettez Georges Lévy à poil, il n'a pas grande chance de survivre au milieu de la jungle. Et qu'en fait, on a survécu, en particulier quand on est né donc en Afrique, quand on est remonté au Moyen-Orient, et qu'on a rencontré nos cousins qui s'appellent Néandertal et qui étaient chez eux et plus costauds, et globalement, on est arrivé à passer outre, voire à les vaincre, et en tout cas à survivre. Et alors, comment on a fait, d'après Harari, c'est qu'en fait, on a inventé le langage et le discours, l'art de raconter des histoires et de se raconter des histoires. Et donc, à partir de ça, ça a permis à Sapiens de mobiliser non pas 4-5 personnes de la petite famille de Néandertal ou d'autres espèces, mais de mobiliser 100, 200, 300 personnes si on pense que l'espèce ou que nos idées sont en danger. Et ça a permis à Sapiens finalement de mobiliser 200, 300 personnes quand ils sont arrivés au Moyen-Orient, disant ben, « on n'a plus rien à croûter en Afrique, donc il faut qu'on remonte », et finalement de mobiliser assez de monde pour battre Néandertal. Alors aujourd'hui, on retrouve ça autour des différentes idées que peuvent être la nation. Hein. La France, c'est plein de cultures qui sont différentes, mais il y a un seul drapeau, les religions en font partie, mais également on peut partir du bio, par exemple, qui est finalement une idée qui est une idée de nature, disons, plutôt sauvage. Alors, on est bio, on n'est pas bio, et ça crée des communautés, en quelque sorte, et on le voit très bien, ensuite, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, etc., où les communautés s'agrègent. Alors, ces mythes, en fait, il n'y en a pas beaucoup et on vit sur pas beaucoup d'idées. Mais si on regarde, par exemple, sur l'agroalimentaire, on a deux types de mythes qui s'opposent, puisque généralement, ils fonctionnent en opposition. Celui de la nature sauvage, celui d'Artémis, en quelque sorte, qui est la déesse chasseresse, qui est la nature sauvage. Et puis, de l'autre côté, c'est la nature cultivée. C'est Déméter et c'est la nature cultivée. Et on voit bien les oppositions qu'il y a aujourd'hui dans notre société entre ce qu'on pourrait appeler les écolos et les agriculteurs, quoi. Hein, globalement, alors, il y a des agriculteurs écolos, mais majoritairement, c'est plutôt une agriculture assez intensive pour cultiver un petit peu pour tout le monde. Et donc, au travers de notre société, on voit que la partie qu'on va appeler écolo, Artémis, nature pure, sauvage, pas trop traficotée, l'emporte. Alors, elle est fondée sur, en fait, trois éléments. Un premier élément qui est l'origine, c'est ce qu'on appelle souvent les locavores. Hein. On parlait des galettes Saint-Michel, si vous voulez. Ça fait partie des éléments originaux ou du beurre paysan breton, qui est une très grosse coopérative, hein, contrairement à ce que son nom exprime, où on pourrait penser que c'est finalement un peu simplement local. Donc, il y a cet élément qui est important. Si je connais le lieu, deuxième élément, je connais les gens qui ont cultivé ça ou qui font ça. Alors, vous avez une marque qui a eu et qui a toujours une belle réussite, qui s'appelle Michel et Augustin, qui a été créé par deux élèves de grandes écoles, hein, globalement, donc qui n'étaient pas vraiment pâtissiers, mais qui ont passé pour montrer que c'était vrai, en plus leur CAP de pâtisserie, et qui ont dit, ben voilà, c'est des petits carrés de chocolat, pas tout à fait carrés, donc c'est un côté un peu artisanal. Et c'est Michel et Augustin, c'est pas leur vrai prénom, mais ils ont d'autres prénoms, et qui ont créé ça, hein, c'est les nouveaux Robinson, enfin, etc. Et puis le troisième élément, c'est naturellement l'histoire. Ça peut être lié à la géographie ou pas lié à la géographie. Récemment, il y a un vin qui est créé par des gens de la Loire qui s'appelle Dumnacus. Dumnacus étant le compagnon de Vercingétorix, qui était vigneron et guerrier, et qui a continué la guerre quand Vercingétorix s'est rendu du côté de Touraine et d'Angers. Et donc, on voit autour de ces idées, finalement, que nous, les consommateurs, on aime bien, on veut bien connaître d'où ça vient, on veut bien connaître qui le fait, on veut bien savoir s'il y a une antériorité, hein, je parlais de l'U, ou que fois les marques mettent leur date de naissance, hein, ou, vous voyez, la bière 1664, parce qu'elle aurait été créée en 1664. Donc là, le produit rejoint des repères qui sont des repères qui existent naturellement dans la tête des gens. Ce qu'on a appris à l'école primaire, quoi, hein, globalement, la géographie, l'histoire, et puis les acteurs, hein, les gens qui ont fait ça. Quand on parle de mythe, c'est un mot savant. C'est simplement une représentation qu'on a en tête et qui est partagée par d'autres. Hein. J'oppose, par exemple, très souvent, dans ces mythes entre nature et culture, entre nature et science, entre industrie et naturel, etc., dans la cosmétique, Yves Rocher qui dit « tous nos produits viennent de la nature » et L'Oréal qui dit eh « ben, nous, c'est la science qui crée des molécules et qui permettent de créer des crèmes qui, finalement, évitent les rides le plus longtemps possible. » Donc, c'est ce type d'opposition. Donc, on appelle le mot savant, c'est le mot mythe, mais le mot qu'il faut utiliser pour nous, c'est représentation, qui encore est un peu savant, ou le mot idée qu'on a en tête. C'est deux très grandes boîtes d'essence française dans la cosmétique. Et l'une dit, eh ben, tu sais très bien que les produits pour ta beauté viennent de la nature. Et puis l'autre nous dit, ben non, la nature c'est bien, enfin la science, c'est quand même la science qui envoie des gens dans la Lune et qui a créé Internet.
Aujourd'hui, notre marché est plus que jamais saturé de marques. Alors comment font celles-ci pour se distinguer et promettre d'être différentes des autres? Comment une marque entre-t-elle tout particulièrement dans l'histoire? C'est ce que nous verrons dans l'épisode prochain avec un exemple particulièrement éclairant. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.